Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans ce passage de l'épître de saint Paul aux Romains que nous avons lu tout à l'instant, saint Paul nous parle de l'attente de la gloire à travers la souffrance. Aussi bien pour l'homme que pour la création en général, il y a deux étapes de notre existence dans le plan de Dieu. D'abord, une situation provisoire, violente et douloureuse, qui produit des gémissements et des plaintes. Mais cette étape temporaire ne sert qu'à préparer et à faire désirer l'étape suivante, qui sera définitive. Nous verrons quelle est cette attente en ce qui concerne l'homme et en ce qui concerne la création, puis aussi une leçon concrète tirée par saint Paul. D'abord, par rapport à l'homme, cette attente, c'est l'attente de notre rédemption, c'est-à-dire de notre rachat. Bien sûr, notre rédemption est déjà réalisée quant à l'essentiel, le plus important. Nous sommes déjà rachetés. Par sa mort sur la croix, Jésus a payé, et même il a payé abondamment, la dette envers Dieu de nos péchés. Et par le baptême, ce prix nous a été appliqué, donné personnellement à chacun d'entre nous. Nous avons reçu le pardon de nos péchés, nous avons reçu la grâce sanctifiante, nous avons l'Esprit Saint qui habite dans notre âme, et nous avons commencé une vie d'intimité filiale avec Dieu. Mais il reste à espérer quelque chose. Même si Dieu nous a réellement adoptés pour ses enfants, dès maintenant, il reste encore à espérer d'autres effets de cette adoption. C'est ce que saint Paul appelle la manifestation des fils de Dieu. C'est notre gloire future. Il s'agit de notre adoption divine dans ses derniers effets, la rédemption de nos corps. Ce sera le fruit de la résurrection des morts. En attendant, l'humanité se trouve dans un état violent, c'est-à-dire un état qui va contre les aspirations de notre nature. L'absence de cette gloire promise, sans parler de toutes les autres souffrances que nous devons subir ici-bas, nous est pénible. Alors, par rapport à la création, c'est justement là où saint Paul s'étend un peu plus. C'est là où il parle avec encore plus de réalisme des douleurs de l'enfantement, en parlant de cette attente de la création. Dieu a soumis toute la création à une longue étape douloureuse, caractérisée par la vanité, c'est-à-dire la futilité, et puis par la corruption. Voilà. En effet, dit-il, la création a été soumise à la vanité. Et puis, il parle plus loin, de la corruption. Voilà. Un jour, la création sera libérée de l'esclavage de la corruption. C'est une véritable esclavage où la nature est comme bridée et empêchée de manifester toutes ses potentialités, de se déployer, déployer toute sa beauté. D'abord, la vanité. C'est la futilité des perpétuels recommencements. Les rythmes cycliques de la nature, avec ses saisons, le jour, la nuit, les marées hautes et basses. Déjà dans l'Ancien Testament, l'Ecclésiaste se lamentait sur cet état des choses. « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Une génération passe, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il se hâte de retourner à sa demeure, d'où il se lève de nouveau. Allant vers le midi, tournant vers le nord, le vent se retourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Vers le lieu où ils se dirigent, ils continuent à aller. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jusqu'à la fin des temps, justement. Et c'est Saint Paul qui a cet éclairage du Nouveau Testament qui nous parle de la fin de cet état vaine des choses. Mais Saint Paul parle aussi de la corruption. La corruption, c'est que les êtres se désagrègent, se décomposent, s'usent. Même les montagnes s'effritent et les cieux passeront. Donc la création est dans un état d'enfantement qui s'achèvera à la fin des temps. Elle est en train de s'adapter à son état futur et définitif. Cet état reste encore mystérieux pour nous. Nous ne savons pas exactement à quoi ressemblera cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux dont parle l'Apocalypse, mais ce sera comme un affranchissement, une libération pour la création elle-même. Mais Saint Paul affirme surtout que cette transformation de l'univers est liée intimement à la glorification des enfants de Dieu. Voilà, la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement, attendant notre adoption de fils de Dieu. Quand les enfants de Dieu, c'est-à-dire nous, les baptisés, seront entièrement rénovés dans la plénitude de notre gloire filiale, il faudra pour nos corps ressusciter les cieux nouveaux et la terre renouvelée qui se préparent sous nos yeux. Cela aussi fait partie de notre héritage de fils de Dieu. Alors de tout cela, Saint Paul tire une leçon concrète. C'est qu'il faut situer la souffrance de l'homme dans le cadre plus large de cette phase provisoire des réalisations divines qui concerne l'univers dans son ensemble. J'estime, frères, qu'il n'y a pas de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire qui doit se révéler en nous, cette gloire future. Donc en fait, il y a deux choses comparées. Il compare les souffrances et la gloire, puis le temps présent et l'éternité. Et sous les deux rapports, il n'y a aucune proportion. Si on compare le temps et l'éternité, là, il n'y a vraiment pas de commune mesure. Comme il est dit dans le psaume 89, « 1000 ans sont devant vos yeux, Seigneur, comme un seul jour. » Donc même toute une vie est comme un grain de sable sur la plage de l'éternité. Le plage de l'éternité. Mais en fait, en réalité, c'est même plus que cela. L'éternité n'est pas un temps qui dure, même un temps qui dure très, 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 très longtemps. L'éternité est en dehors du temps. Elle est au-dessus. L'éternité est un éternel maintenant. Il n'y a pas de durée à proprement dit. On est perpétuellement dans le présent. Et puis, si on compare la gloire avec les souffrances, il n'y a aucune commune mesure. Donc la gloire comble notre être. La gloire va inonder toutes les facultés de notre âme et puis même nos corps. Aucun mal que nous souffrons ici-bas ne peut prétendre à une telle extension, à un tel déploiement. Parce que le mal n'existe pas par lui-même. Le mal est toujours une privation ou un désordre de quelque chose d'autre qui, lui, existe et qui est bon en soi. Le mal est comme une parasite. Il a toujours besoin d'un support. Et donc, le mal ne peut jamais s'étendre sous tous les rapports à la fois, comme la gloire qui remplira tout notre être tout entier. Donc, la souffrance que nous, les souffrances que nous avons ici-bas peuvent être des plus pénibles, mais en fait, elles sont si peu de choses au regard de la gloire qu'elles enfantent. Vous avez remarqué que saint Paul utilise la même image que notre Seigneur lui-même dans l'Évangile, en parlant d'une femme qui enfante et qui, évidemment, passe par des douleurs, mais qui est tellement heureuse en voyant son bébé qu'elle oublie toutes les souffrances qui ont précédé cette naissance. Et c'est pareil, quand nous serons arrivés dans la gloire, nous allons oublier toutes les peines d'ici-bas et nous allons nous rendre compte que ces souffrances passent si vite et disparaîtront pour l'éternité. Donc, essayons de garder ça en tête quand nous avons des peines à subir, de penser souvent au ciel et à cette gloire qui nous attend là-haut avec la Sainte Vierge, notre Seigneur et tous les anges et tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.